Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. La Chine et l'Éthiopie appellent à renforcer la coopération sino-africaine via le Forum sur la coopération sino-africaine. Le monde reconnaît l'État de Palestine, Israël et leurs alliés sont isolés, a déclaré Turquie. L'ordre de la Cour internationale exigeant qu'Israël cesse ses attaques contre Rafah doit être respecté. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Un certain nombre de responsables chinois et éthiopiens ont appelé à une coopération accrue dans divers domaines entre la Chine et l'Afrique dans le cadre de la coopération du Forum sur la coopération sino-africaine. L'appel a été lancé lors du sommet intitulé « Revisiter le rôle de l'Éthiopie dans le Forum sur la coopération sino-africaine ». Et la voix à suivre à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie récemment. S'exprimant lors de l'événement, le chef du bureau du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Essel Tilaung, a déclaré que le Forum sur la coopération sino-africaine s'est avéré être une plateforme efficace et solide pour promouvoir la coopération Afrique-Chine en soutenant le développement des infrastructures cruciales, en améliorant la connectivité, en augmentant les activités commerciales, en attirant l'investissement direct étranger et le développement de l'entrepreneuriat à travers l'Afrique. Tilaung a souligné que depuis sa création en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine a joué un rôle important dans la promotion de la coopération. C'est la preuve des aspirations communes, du respect mutuel et de l'esprit de la collaboration entre la Chine et l'Afrique. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que la reconnaissance mondiale croissante d'un État palestinien isolerait Israël et ses alliés. Hakan Fidan, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, comme l'a rapporté Anadolu vendredi, a réitéré l'importance pour la Palestine de recevoir une reconnaissance légale, a appelé à une action immédiate pour mettre fin au massacre perpétré par Israël. Selon Hakan, il est temps pour la communauté internationale de mettre de côté son silence et de prendre des mesures pour mettre fin au génocide commis par le régime raciste et fondamentaliste d'Israël, à la fois diplomatiquement et par la mise en œuvre des décisions prises. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné que la décision de la Cour internationale de justice était contraignante après que la Haute Cour de l'ONU a ordonné à Israël de cesser immédiatement ses opérations militaires à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Guterres, dans une déclaration via son porte-parole rapportée par AFP samedi, a également rappelé que la décision de la Cour internationale de justice doit être respectée par les parties concernées. La Cour internationale, dans sa décision annoncée vendredi, heure locale, a ordonné à Israël de cesser immédiatement ses attaques dans la région de Rafah. Cette décision pourrait potentiellement accroître la pression internationale en faveur d'un cessez-le-feu après la guerre depuis 7 mois dans la bande de Gaza. La décision de la Cour internationale de justice exige également la libération immédiate de tous les otages encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Les participants du 10e Forum mondial de l'eau ont convenu du programme des champions d'action de bassin de Bali, contenant un nouvel engagement à soutenir la gestion des bassins fluviaux en tant que moteur de la réalisation des objectifs de développement durable. Le secrétaire général du réseau international des organismes de bassin, Eric Tardio, a déclaré vendredi à Badung, Bali, que les participants au segment de bassins fluviaux ont salué la décision du 10e Forum mondial de l'eau de consolider davantage la gestion des bassins fluviaux comme une priorité politique en continuant à inclure les questions liées aux bassins fluviaux dans le segment politique de haut niveau. Tardio a expliqué que la question du territoire fluvial couvre également les segments du ministère, du Parlement et du gouvernement régional. Le Bali Basin Champion Agenda comprend des étapes de collaboration telles que le lancement de la Twin Basin Initiative, un programme mondial de renforcement des capacités et d'échange d'expérience entre les organisations du monde entier qui travaillent dans la gestion intégrée des ressources en eau au niveau de bassins fluviaux nationaux et transnationaux. L'Indonésie, représentée par le ministre des Travaux publics et du Logement public, M. Basuki Hadi Mulyono, a confié le relais de l'accueil du Forum mondial de l'eau à l'Arabie Saoudite. Basuki Hadi Mulyono, lors de son discours à la cérémonie de clôture du 10e Forum mondial de l'eau à Nusa Dua, Bali, a souligné vendredi que même si la mise en œuvre du 10e Forum mondial de l'eau était terminée, le travail commun n'était pas encore terminé. Basuki a souligné qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, comme l'importance de poursuivre les différentes actions concrètes qui ont été formulées. Les différents engagements pris par ce forum doivent être suivis d'actions concrètes. À cet égard, Basuki a rappelé que le recueil contenant 113 projets d'une valeur de 9,4 milliards de dollars américains qui a été lancé avec la déclaration ministérielle de mardi, doit être réalisé pour apporter des avantages à la communauté. Par rapport à cela, Basuki a rappelé que le recueil contenant 113 projets d'une valeur de 9,4 milliards de dollars américains qui a été lancé avec la déclaration ministérielle mardi doit être réalisé pour apporter des avantages à la communauté. En outre, Basuki a également souligné l'importance d'accroître la synergie entre les parties prenantes, considérant que les problèmes de l'eau sont liés aux questions du changement climatique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Les premières nouvelles sont venues de Pekalongan dans le centre de Java. Le gouvernement de la ville de Pekalongan dans le centre de Java expose 4 statues d'artefacts et anciennes collections de batik aux touristes pour accueillir la longue période de vacances du 23 au 26 mai 2024. Le directeur du musée Batik de Pekalongan, Madame Nur Hayati Sinaga à Pekalongan, a déclaré jeudi que les quatre statues artefacts étaient la statue de Durga Mahisasuramardini, la statue de Ganesha, le fragment de corps de la statue de Ganesha et le fragment de forme de réalisation de la statue de Vishnu. Selon Nur Hayati, les statues ont été disposées dans le couloir du musée Batik Pekalongan qui sert de scénario éducatif afin que les visiteurs puissent voir des objets historiques lorsqu'ils quittent la salle d'exposition. Même si elles ne font pas partie du patrimoine du Batik, a déclaré le directeur du musée du Batik de Pekalongan, les statues sont des objets historiques. Les musées sont obligés de préserver et de socialiser ces objets historiques. Les nouvelles suivantes sont venues de Trenggalek dans l'est de Java. Des milliers d'habitants et de touristes se sont rassemblés mardi sur la route menant au port de pêche de Prigi Nusantara à Trenggalek dans l'est de Java, qui est le centre du rituel traditionnel Labuh Laut Sembonyo, qui est une tradition annuelle pour pêcheurs locaux chaque mois de Selo dans le calendrier javanais. La tradition de faire l'aumône à la terre consiste à jeter deux grands tumpeng contenant divers produits agricoles au milieu de la mer dans les eaux de la baie de Prigi, tenu animé avec des coutumes typiques japonaises. Le régent de Trenggalek, M. Mohamad Nur Arifin, était présent pour assister directement à la procession de cette tradition vieille de plusieurs centaines d'années. Après la procession traditionnelle, le tumpeng est jeté à la mer. La ronde était suivie par des dizaines ou des dizaines de pêcheurs et des habitants de baie de Prigi. Outre la procession de la ronde, la série d'activités comprend des représentations d'art jaranan et de style tayub. Cette activité s'est progressivement étendue au secteur du tourisme culturel et toujours très fréquentée par les touristes, y compris les touristes étrangers. Les dernières nouvelles viennent de Pontianak dans le Kalimantan occidental. Le carnaval culturel sous la forme d'un défilé de chars et d'une marche ensemble, un tenu typique des Dayak, fait partie d'une série d'événements pour la 38e semaine Gawai Dayak du Kalimantan occidental qui a lieu dans la ville de Pontianak le lundi. Tarsisius Ivan Sabandap, conseiller de 38e semaine Gawai Dayak du Kalimantan occidental, a déclaré que le carnaval était une forme de préservation de la culture traditionnelle ainsi qu'un effort pour présenter la culture Dayak à la communauté au sens large. Il a expliqué que la culture Dayak n'est pas seulement destinée au peuple Dayak, mais doit également être introduite dans la société afin qu'elle puisse exister à l'ère de la technologie, afin que la culture Dayak ne soit pas érodée par la culture extérieure. Ivan Sabandap a déclaré que la 38e semaine Gawai Dayak du Kalimantan occidental est effectué depuis des années, bien qu'il y ait un poste vacant en raison de la situation de COVID-19 à ce moment-là. Il espère que non seulement le peuple Dayak préservera sa culture, mais que tous les groupes ethniques qui ont des traditions culturelles ou qu'ils se trouvent doivent tout préserver leurs traditions culturelles, même au niveau international. La 38e semaine Gawai Dayak du Kalimantan Occidental, qui se tiendra du 18 au 25 mai 2024 à Pontianak à pour thème renforcer des traditions et de la culture Dayak pour la Grande Indonésie. Chers amis, c'était la rubrique Les Nouvelles de l'Indonésie. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec la fondation de la communion des églises d'Indonésie le 25 mai 1950. Le Conseil indonésien des églises a été fondé le 25 mai 1950 à Jakarta. La formation du Conseil des églises indonésiennes a eu lieu du 21 jusqu'au 28 mai 1950. Lors de la conférence pour la création du Conseil des églises d'Indonésie à l'École supérieure de théologie de Jakarta. Citant par pgi.or.id, 30 représentants d'églises indonésiennes ont assisté à la conférence. Le nom de communion des églises indonésiennes a commencé à être utilisé en 2014, après avoir été décidé lors de la 10e Assemblée générale à Ambon. Le 25 mai 1958, Ismail Marzuki est décédé. Il est l'un des grands compositeurs indonésiens. Il est né le 11 mai 1914 à Jakarta. Au cours de sa vie, il s'est consacré à travers ses œuvres à l'Indonésie. Ses chansons sont pleines d'amour pour le pays et d'esprit de lutte, comme Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola et Halo Halo Bandung. Ismail Marzuki est décédé à l'âge de 44 ans, le 25 mai 1958. Auparavant, la santé Ismail Marzuki s'était dégradée. Il décide de se retirer ses activités orchestrales. Ismail Marzuki est mort dans les bras de sa femme, Ais Zuraida. Son nom est désormais immortalisé en tant que centre artistique de Jakarta, à savoir Taman Ismail Marzuki. En 2004, le gouvernement a désigné Ismail Marzuki comme héros national indonésien. Je termine l'histoire aujourd'hui en 1983. La Journée nationale des enfants disparus était célébrée aux États-Unis. La Journée nationale des enfants disparus est célébrée aux États-Unis tous les 25 mai depuis 1983. Cette commémoration a été proclamée pour la première fois par le président Ronald Reagan. Plusieurs années avant la création de la Journée nationale des enfants disparus, une série de cas d'enfants disparus avait fait d'actualité nationale aux États-Unis. Le 25 mai 1979, Ethan Peetz, 6 ans, a disparu alors qu'il rentrait chez lui à New York. La date de la disparition d'Ethan a ensuite été déclarée la Journée nationale des enfants disparus. À cette époque, les cas d'enfants disparus retenaient rarement l'attention des médias nationaux. Mais le cas d'Ethan a rapidement fait l'objet d'une large couverture médiatique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Pertama ku bertemu denganmu, manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku, hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi
pendamping dalam hidupku, yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di dunia. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersaya. Itu kamu di dalam hatiku, oh, hanya kamu bidadari surgaku, oh. Maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku, yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di dunia. Oh, oh,
première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter les parlements indonésiens et suédois discutent de l'alimentation et de l'environnement. La commission 4 du Parlement indonésien a effectué une visite de travail à Stockholm, visitant le Parlement suédois. Citant par dpr.go.id, une délégation de la commission 4 du Parlement indonésien a effectué la visite pour étudier les politiques et les programmes qui ont été mis en œuvre par le gouvernement suédois dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, de la pêche et des affaires maritimes, l'environnement et la foresterie. Le président de la commission 4 du Parlement indonésien, M. Budi Setiawan, a déclaré que la visite était un premier point qui pourrait accroître la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de la gestion forestière et de l'environnement. Au cours de la visite, la délégation du Parlement indonésien a visité le marché aux poissons et fruits de mer Asta, ainsi que le bétail de la plantation de Bonamunsu, en plus de rencontrer la commission de l'environnement et de l'agriculture à Stockholm. Budi Setiawan a déclaré que la visite au marché aux poissons visait à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans le secteur de la pêche. Il a expliqué qu'actuellement, la consommation suédoise de poissons dépend toujours du produit de la pêche importée et que c'est une grande opportunité pour l'Indonésie d'exporter ses produits de la pêche. Il a ajouté que le marché suédois était un marché très important car il offre à l'Indonésie une grande opportunité d'entrer sur le marché de poissons d'autres pays européens. Pendant ce temps, lors d'une visite de ferme et de plantation à Bonagard, la délégation de la Commission 4 du Parlement indonésien en collaboration avec l'ambassade de la République d'Indonésie à Stockholm a tenu des réunions avec des éleveurs à étudier la mise en œuvre de l'agriculture intégrée comme la transformation du bétail et des déchets agricoles à réutiliser comme engrais organique et les autres matières premières énergétiques. Budi Setiawan a déclaré que l'Indonésie pouvait étudier le système d'efficacité du bétail utilisé par les agriculteurs suédois afin qu'ils puissent produire une production de lait de 70 litres par tête et réduire les importations de lait qui sont actuellement encore effectuées par l'Indonésie. En dehors de cela, la délégation de la Commission 4 du Parlement indonésien a également tenu une réunion avec le président des relations d'amitié interparlementaire Suède-Indonésie, M. Adam Reuterskiöld, et les membres de la Commission de l'environnement et l'agriculture. Lors de la réunion, la délégation indonésienne a souligné plusieurs problèmes et obtenu des solutions liées à la réduction du nombre d'agriculteurs et l'augmentation du nombre de jeunes agriculteurs. Le problème de CPO, l'étude de concept de pêche, des pêches mesurables et du concept de foresterie sociale qui a été mis en œuvre par le gouvernement suédois à ce jour. Budi Setiawan espère que lors de la prochaine visite du Parlement suédois, la Suède profitera de sa visite pour accroître la coopération commerciale dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement. La délégation de la Commission 4 du Parlement indonésien s'engage à continuer de renforcer la coopération entre les deux pays pour le progrès et la durabilité des secteurs vitaux pour les deux pays. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bahagia telah bersama. selamanya hingga akhir hidup kita. Indahnya dunia kita berdua, semoga selamanya Tuhan kau jaga. Ku harap tak akan ada dusta, biar bumi kan jadi saksi. Indahnya dunia kita berdua, semoga selamanya ku kan kau jaga. Ku harap tak akan ada dusta, biar bumi kan jadi saksi.
Bahagialah bersama kisah kita selamanya.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Jajé Lak-Lak est une sorte de crêpe de Bali. Bali, également appelée l'île de Dieu, est célébrée pour sa beauté naturelle et sa riche culture sous forme de traditions, d'art et de coutumes. Bali possède également une richesse et une diversité culinaire intéressante. Chaque région de Bali a ses différences et des caractéristiques culinaires. Des repas copieux aux collations ou collations qui peuvent être utilisés comme les amis pour vous accompagner pour boire du café ou bien du thé. L'une de ces collations est le gâteau au Jajé Lak-Lak. Et ce gâteau sera également un délice culinaire qui sera servi au 10e Forum mondial de l'eau pour les délégués qui doivent visiter la zone de destination touristique de Jatiluwe, Tabanan, Bali. Le gâteau Lak-Lak, ou ce qu'on appelle habituellement Jajé Lak-Lak, est un petit gâteau en forme de cercle d'un diamètre de 3 cm et un goût délicieux. Jajé Lak-Lak est similaire au gâteau Surabi dans le centre de Java et au Surabi à Bandung dans l'ouest de Java. Cette collation traditionnelle est généralement vendue sur le marché traditionnel ou bien sur les stands vendant des gâteaux traditionnels à Bali. Les ingrédients pour fabriquer ce gâteau sont de la farine de riz mélangée à de l'eau, du sucre et des colorants naturels comme des feuilles de suji pour la couleur verte et du lait de coco pour la couleur blanche, puis la pâte est moulée à l'aide d'un moule en argile. Une fois cuit, Jajé Lak-Lak aura des tous en surface. Jajé Lak-Lak est généralement servi avec de la cassonade fondue et une pincée de noix de coco râpée. La fabrication du Lak-Lak est encore très traditionnelle, à savoir en utilisant un poêle et également du bois de chauffage, ce qui lui confère un arôme différent et un goût distinctif. Jajan Lak-Lak Bali qui peut être dégusté avec du café ou du thé est étroitement lié à la société et à la religion hindoue. Alors que dans l'hindouisme balinais, les gâteaux sont généralement des équipements de cérémonie. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter que Toprak et Gado-Gado existent dans la liste des salades les plus délicieuses du monde 2024. This Atlas a publié au début de mai sa liste de 100 salades les plus savoureuses au monde. Les légumes transformés de divers pays sont inclus dans cette liste, y compris les aliments d'Indonésie. Selon la liste globale, 6 aliments indonésiens figurent sur la liste de Taste Atlas des salades les plus délicieuses au monde. Les 6 sont ketoprak, gado-gado, rujak cingur, salad solo, karedok et asinan. Les classements alimentaires sont triés en fonction des choix des lecteurs de l'encyclopédie des plats et des restaurants du monde. Taste Atlas prend les votes de ses lecteurs qui ont des comptes, puis classe les aliments ayant le score le plus élevé. Ketoprak est classé 26e parmi les 100 meilleures salades du monde. Cet aliment est généralement composé de ketupat ou lontong, de vermicelle, de tofu, de germes de soja, de concombre, de sauce aux arachides et de sauce soja sucrée. Même si l'on sait qu'il vient de l'ouest et du centre de Java, il est facile de trouver des vendeurs de ketoprak dans d'autres régions, notamment à Jakarta. Les vendeurs de ketoprak utilisent généralement des chariots pour vendre cette nourriture le matin et le soir. Taste Atlas a classé le gado-gado au 34e rang et l'a décrit comme la version indonésienne de la salade composée. Les légumes de gado-gado varient du saumon frisé, des épinards, des germes de soja, de la chayotte, des haricots longs aux germes de soja, des morceaux de tofu frit et de tempeh sont également ajoutés au gado-gado, puis mélangés à de la sauce aux arachides. C'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Malam
dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson de Kroncong intitulée « Jangan biarkan » chantée par Bella Nadinda avec Kroncong Nation. Cette chanson créée par Hani Tuheteru est une chanson popularisée par la chanteuse senior Diana Nasution en 1978. Elle a ensuite été recyclée par Titi DJ en duo avec Diana Nasution, puis sortie en 2010. Cette chanson raconte du désir d'une personne d'espérer et de demander à son partenaire de ne pas partir et de lui quitter, car elle ne peut pas vivre sans son amant. Bon, chers auditeurs, voici Bella Nadinda avec Kroncong Nation, dont le titre est « Jangan biarkan ». Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.